Comment en vient-on à créer un outil éducatif de référence quand on est développeur et geek? J'ai compris se retrouver utilisé dans le monde entier sur de multiples plateformes et proposant un très vaste panel d'activités dans une trentaine de langues. Notre panel d'utilisateurs de moins de 10 ans lui a tous donné la meilleure note, 10 justement. Nous recevons Bruno Coudouin, responsable logiciel embarqué chez Continental Digital Services, créateur du projet J'ai compris, cofondateur de l'association Tout Libre et grand charmeur de Python. CPU carré petit utile. Bruno, quelle est ta première expérience avec un ordinateur ?
Ma première expérience, c'est avec... Moi, je voulais un ZX81. Mm-hmm. Donc, ça fixe un petit peu tout de suite ma génération, mon âge, pour ceux qui connaissent tout ça.
Ouais.
Et j'ai eu un Oric, hein, qui était mieux que le ZX81. Mais bon, c'était l'époque. Et donc, moi, j'ai appris le basique. J'ai appris à programmer là-dessus.
Ça t'excitait pas, là, les Thomson, là, que l'on a devant nous?
Si, la semaine prochaine. C'est ma génération, tout ça, ouais. Et après, je me suis vraiment pris à ce jeu-là. Et je suis passionné d'informatique. Et après, j'ai eu un nouveau thème de passion, toujours auprès de l'informatique, quand j'ai découvert, en fait, les logiciels libres, qui ont été une révélation un petit peu chez moi sur l'aspect politique derrière le logiciel, où le logiciel n'est plus uniquement un produit qu'on échange, c'est aussi un savoir qu'on échange, et c'est aussi une autre façon de concevoir le logiciel. C'est aussi un aspect collaboratif, et on est autour de la création et non pas uniquement autour d'une société, des gens qui sont payés pour faire ça. On crée parce qu'on a envie de créer. On est dans le monde geek, monde libre. Et en même temps, on fait un mouvement politique où on a envie que le savoir soit partagé, que tout le monde puisse accéder à un ordinateur, que tout le monde puisse allumer un ordinateur sans avoir à payer quelqu'un ou à payer une taxe, une redevance.
C'était immédiatement, en fait, justement, par cette disponibilité du logiciel et ce que cela signifie au niveau philosophie et politique qui fait que tu t'y étais lancé, quoi.
Moi, j'avais pas ça au début. Hein. Au début, ça n'existait pas. On avait un ordinateur, on n'avait pas Internet. Donc, toute cette notion politique, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Moi, j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler, où on n'avait pas encore Internet et on s'échangeait. Il y avait la Free Software Foundation qui avait créé ce mouvement aux États-Unis. Donc ça devait être en 1983, je crois qu'ils l'ont créé, mais moi, je n'avais pas accès à Internet, donc on ne savait pas. Et c'est en 93 à peu près que j'ai découvert ça. Et on achetait les cassettes de gens aux États-Unis qui avaient créé des logiciels. Et c'était un peu une seule façon d'avoir des logiciels qui avaient fait d'autres personnes et qu'on pouvait... sur laquelle on pouvait avoir du code source. C'était la première fois qu'on pouvait voir le code source qui avait été créé par d'autres personnes. D'habitude, le code source était créé dans les entreprises, en petits comités ou des gens qui étaient payés pour ça. Et après, on recevait le résultat du code, mais on ne savait pas comment ça avait été créé. Et savoir comment les autres ont fait, comment ils s'y sont pris, c'est extrêmement enrichissant pour toi-même progresser dans ton métier.
Présente-nous donc, j'ai compris.
Donc j'ai compris, donc dans la suite de cette mouvance où j'ai découvert le logiciel libre, j'ai eu des enfants et je me suis dit, ben moi je travaille sur système d'exploitation Linux, on était en 2000 et j'avais envie d'offrir à mes enfants des logiciels éducatifs sur Linux, alors qu'à cette époque-là ils étaient tous fournis sur Windows. Et donc, ne trouvant pas vraiment de logiciel ou pas, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai décidé, je me suis dit, je vais en faire un. Et j'ai commencé à en faire un qui n'était pas très évolué, puis je l'ai publié sur Internet, et puis là, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais c'est intéressant ton logiciel, on pourrait faire ça avec, est-ce qu'on pourrait améliorer telle et telle chose ?» Et puis je me suis pris au jeu, j'ai continué à l'améliorer, à le faire évoluer. Jusqu'à rejoindre donc une communauté de développeurs autour d'un projet, un gros projet autour de Linux qui s'appelle GNOME à l'époque.
Et le G de
GNU. Donc le GNU, c'est le nom de code du projet de la Free Software Foundation. Et puis c'est la genèse. Donc à partir de 2000, je me suis lancé à travailler un peu tous les soirs, un peu les week-ends, à travailler sur ce logiciel, à l'améliorer. Il y a des gens qui l'ont traduit dans une vingtaine de langues, puis 30 langues, et ça s'est diffusé. Donc on l'avait, c'est un logiciel qu'on avait standard un petit peu quand on installait Linux. Bah, par défaut, quand tu cherchais un logiciel éducatif, tu tombais sur J'ai compris très, très facilement, quoi.
Voilà, c'était un peu le fait que ça soit l'un des premiers projets qui en a fait sa popularité ou c'est sa qualité ?
C'est beaucoup les logiciels pionniers un petit peu qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde du logiciel libre, que ce soit les GIMP, les KDE, les LibreOffice, tout ça, c'est le fait qu'ils étaient là au début et après, petit à petit, c'est ceux qui sont là, qui s'enrichissent et qui s'améliorent. Donc c'est difficile pour des nouveaux projets d'arriver à dépasser des projets qui ont une masse critique de développeurs et une masse critique de code qui est déjà bien évolué.
Alors, ça fait super longtemps qu'on voulait faire cette émission avec toi. Et donc, il y a une collaboratrice de cette émission qui, malheureusement, ne peut pas être présente. C'est Myriam Chave. Je lui ai fait découvrir ce logiciel il y a 2 ans. Elle a dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ben, écoute, c'est ton prochain sujet. Et elle a mis dans les mains de ses enfants et ils n'ont pas lâché la tablette depuis. Pourquoi les enfants accrochent aussi bien, j'ai compris ?
Alors, déjà, le fait qu'ils accrochent comme ça, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien dans le logiciel qui est fait pour accrocher les enfants. C'est-à-dire que les logiciels aujourd'hui ont beaucoup d'ingénierie pour rendre les enfants, et voire les adultes,
l'attention, oui.
Addicts, en fait. Et donc, on voit pas mal d'adultes, peut-être vous, peut-être, voilà, qui jouent au jeu de manière addictive. Et donc, il y a toute une science maintenant dans les logiciels, dans la création de logiciels pour rendre les gens captifs de ça. Et donc, j'ai compris, nous, on n'a pas voulu faire ça parce qu'on n'avait pas la technologie pour le faire, on n'avait pas le temps de le faire, ça ne nous intéressait pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ça qu'on voulait faire en plus et que c'était bien qu'on ne le fasse pas. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de badge, on ne gagne pas de points, on ne vous dit pas, tiens, tu n'es pas venu depuis longtemps, reviens, nanana, des trucs comme ça. Pour inciter les enfants à être captifs. S'ils veulent jouer au jeu, ben c'est comme un livre. Ils viennent parce que le livre, il est sympa et qu'ils ont envie de continuer à le lire. Mais le livre, il ne leur fait pas des clins d'œil pour leur dire « Hey, tu ne m'as pas lu depuis 3 jours, reviens !» On ne fait pas ça.
Dans J'ai compris, il y a une palette de sujets assez impressionnants, mathématiques, géographie, langue et tout ça. Quel a été en fait le premier sujet qui a été pris ?
Le premier sujet, c'était apprendre à cliquer, apprendre à découvrir le clavier de l'ordinateur, apprendre la souris.
Donc, c'était apprendre l'outil numérique avant tout, quoi.
Oui, c'était les premiers. Voilà, c'était se familiariser avec l'outil informatique. Alors, paradoxalement, apprendre à utiliser une souris, ben, il va falloir le refaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'enfants qui vont arriver sur le milieu du travail et qui ne vont pas comprendre ce que c'est qu'une souris.
C'est vrai.
Donc, on va s'y remettre. Mais oui, c'était découvrir le clavier. Mais à travers découvrir le clavier, ben, on découvre aussi la lecture parce qu'en fait, il y a les lettres qui sont dessinées. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié. Et après, on a voulu être libre, on a voulu, moi je suis toulousain, ben, j'avais envie de faire un logiciel sur les écluses par exemple, parce qu'avec les enfants, on se balade toujours à côté des écluses. Et donc j'avais envie
de
faire...
Et donc ça coulait de source.
Ça coulait de source, voilà, de se dire, ben, tiens, les enfants, ils vont s'amuser à comprendre la logique de, ben, je suis éclusier et j'appuie sur les boutons pour faire passer le petit bateau avec Tux dessus. Et après, on s'est libéré, on est libéré du carcan éditorial, de l'éducation nationale qui pourrait nous imposer telle ou telle thématique. Donc là, on n'a pas du tout ça, on a fait comme on veut. Et l'éducation nationale, il y a beaucoup de professeurs qui s'y sont retrouvés, qui ont récupéré les activités pédagogiques qu'on avait dans J'ai compris pour les intégrer dans des projets pédagogiques qu'ils avaient eux. Mais on n'est pas du tout lié à un cursus ou un autre, quoi.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes donc avec Bruno Coudouin, créateur donc de J'ai compris. Qui a tant à nous dire, même si quand même il a quitté le projet, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'as-tu dû reprendre à zéro dans J'ai compris à la demande de ta communauté ?
Alors, ce qu'on a repris à zéro, c'est que le logiciel, les choix technologiques qui avaient été faits au début en 2000 se sont retrouvés pas très adaptés, voire pas adaptés du tout pour fonctionner sur les nouveaux matériels. Les tablettes, smartphones et autres joyeusetés qu'on a dans la main et dans la poche tous les jours. Et donc, il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé de reprendre le projet à zéro et de tout réécrire dans une nouvelle technologie, KDE, QML, Qt Quick, pour ceux qui connaissent cette technique.
Pour ceux qui connaissent un petit peu quand même, GNOME et KDE, c'est deux projets plus ou moins concurrents dans l'open source, donc c'est vraiment un revirement, quoi.
Un virement, voilà, ouais, complètement, ouais. Voilà, changer complètement de communauté dans la communauté concurrente, mais avec beaucoup d'anicroches, mais beaucoup de ressemblances aussi.
Ça change pas mal entre les deux, donc ça va.
Dans le fond, voilà, dans l'éthique, il y a les mêmes passions. Et donc, cette technologie m'a permis d'amener le projet, de le faire vivre complètement et de le faire tourner sur toutes les nouvelles tablettes, iOS, Android, Linux, Windows, macOS, tout ça à partir du même code. Donc, le même code. On ne peut pas se permettre, quand on est une petite communauté de développeurs, il ne faut pas s'imaginer les communautés de développeurs comme étant des milliers de personnes qui n'attendent que de coder les trucs qu'on a envie de faire. Donc ça ne marche pas comme ça. Et donc il faut être malin pour trouver des solutions techniques qui nous permettent d'adresser le plus de solutions possibles et de matériel possible avec le moins d'efforts. Donc c'était un bon choix et aujourd'hui ça tient encore, on est toujours là-dessus.
Quand j'ai compris à commencer à rentrer officiellement dans des écoles
Très très rapidement, à peu près. Moi j'ai commencé, alors à côté du projet, on n'en a pas parlé, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait aussi en faire une activité un petit peu commerciale. Et donc j'ai voulu expérimenter et combiner les deux aspects, l'aspect logiciel libre et l'aspect commercial. Donc on confond souvent en fait ces aspects logiciels libres en disant c'est logiciel gratuit. En fait non, c'est des logiciels libres qui donnent un certain nombre de libertés, la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer le logiciel, mais rien n'empêche de le vendre, même si ça complique un petit peu la donne. Et donc à partir de 2003, où le logiciel commençait à être pas mal utilisé, j'ai décidé d'en faire une version Windows. Il tournait que sur Linux. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'embêterais à faire une version Windows, puisque moi, je n'utilise pas Windows. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire payer ceux qui sont sur Windows, et sur Linux, ça continuera à être gratuit, puisque c'est ma communauté, c'est eux qui m'aident. Et finalement, c'était pas une si mauvaise approche. Ça s'est très très bien, ça a été très très bien perçu. Et ça m'a permis d'avoir aussi pendant tout ce temps un petit revenu d'appoint, je dirais, qui permettait de continuer à se motiver, parce que travailler sur un projet un peu tous les soirs et tous les week-ends pendant, j'ai fait ça jusqu'en 2016, donc pendant 16 ans, donc c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc le fait d'avoir un peu d'argent à côté qui vient de ça, c'est sympa.
Et comment, en fait, tu es arrivé à discuter avec des institutions comme les académies, l'éducation nationale ou les ministères d'éducation d'autres pays ?
Alors, avec la France, il y a eu une relation particulière, parce que c'est vrai que le fait d'être français, malgré tout, même si le logiciel est traduit dans plein de langues et pas mieux traduit en français que dans d'autres, néanmoins, le fait que je sois en France m'a permis d'accéder où la communauté s'est plus diffusée en France. Et il y a certaines personnes à l'éducation nationale, à certaines périodes, qui m'ont aidé, qui ont aidé le logiciel, qui ont aidé les logiciels libres. Je ne suis pas sûr que ces mouvements existent encore, et que ça, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu. Et que le monde un petit peu propriétaire fermé, des éditions numériques ont repris un petit peu le contrôle de la situation, quoi. Donc néanmoins, pendant quelques temps, effectivement, j'ai réussi à rentrer dans des catalogues de distribution de logiciels, et ça a boosté un petit peu les revenus. Et dans d'autres pays, il y a des communautés, des académies parfois qui achètent le logiciel et qui disent ben moi je veux le logiciel pour le déployer sur 1000, 2000, 10 000 ordinateurs. Et là, je faisais des cotations pour dire voilà, ben, je vous fais tant de prix pour distribuer le logiciel et l'installer sur tous vos ordinateurs. Ça a été utilisé en Indonésie pour des éditions, où il y a des endroits où il y avait des associations qui installent les logiciels dans des écoles. Ils vont amener les logiciels à mobilette, parce qu'il n'y a pas Internet et il n'y a rien du tout. Et je faisais partie des logiciels qui étaient déployés dans les écoles à mobilette en Indonésie, quoi.
C'est une drôle de version du protocole IP. Hein.
C'est mobilette IP, voilà, ouais.
Du coup, c'est extrêmement gratifiant qu'il y ait une forte participation de la communauté. Donc, ça veut dire quand même ton logiciel se plaçait là où il y avait une lacune et où donc les éditeurs professionnels n'avaient pas identifié la manière de faire.
Ils n'avaient pas identifié la manière de faire et ils s'en foutaient parce qu'on peut pas gagner d'argent. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. Même une personne, tu n'arrives pas à en vivre. Donc, eux, ça ne les intéresse pas. Quoi. Mmh. Et à partir du moment où il n'y a pas d'argent, y a le vide qui se crée. Et puis, il y a quelques, voilà, des logiciels avec des gens un peu passionnés qui arrivent à faire vivre ça. Mais les éditeurs professionnels, ils ne vivent pas avec ces trucs-là.
D'un autre côté, toi, tu en es un petit peu sorti, justement, de ce côté-là. Il y a eu des gens pour le reprendre. Ce modèle semi-commercial, est-ce que, justement, il a continué ou, finalement, il a été arrêté ?
Alors, moi, j'ai souhaité tout faire pour que le projet continue. Donc, aujourd'hui, il y a une équipe cœur de deux personnes que j'ai lancé dans la suite et qui était déjà présente dans le projet quand j'ai arrêté. Une personne qui s'appelle Johnny, qui est un Français qui s'occupe de la partie technique, et un informaticien qui s'occupe de la partie technique, et une autre personne, Timothée, qui s'occupe de la partie graphisme. Et comme la partie graphiste, les artistes ont plutôt tendance à être un peu les mal-aimés de notre système commercial aujourd'hui, et donc ils ont plus de difficultés pour vivre. Donc j'ai donné la partie commerciale à Timothée, qui donc s'assure du support et donc il fait des tâches un petit peu pénibles autour de la commercialisation du projet, mais qui anime toute la partie commerciale et donc qui récupère l'argent et qui est auto-entrepreneur et qui déclare voilà toutes ses revenus. Donc j'ai redirigé tous les flux financiers à Timothée qui s'occupe de ça maintenant.
Et actuellement, tu as plus d'utilisateurs en France, en Europe ou dans d'autres parties du monde ?
Ça a toujours été plus en France, c'était plus connu en France, ouais. Mais après c'est connu, c'était beaucoup, il y avait dans les autres pays, il y avait beaucoup l'Indonésie, le Brésil, après les États-Unis, Canada, Québec, c'était très très connu. Un peu partout après dans le monde, ouais.
En tout cas, c'était une belle aventure. Est-ce que franchement, tu regrettes ou tu regrettes pas ?
Ouais, je regrette rien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et au-delà de l'engagement, moi, j'estime que j'ai donné un petit peu le retour de. J'ai payé ma dette à tous les logiciels libres que j'utilise tous les jours et pour lesquels je ne donne rien. Donc c'était ma façon de contribuer à cette communauté, donc ça c'est déjà beaucoup. Mais surtout d'un point de vue technique, d'un point de vue de mon métier, moi je suis informaticien, j'ai appris énormément de choses. C'est des communautés où on est en avance sur les technologies, on utilise des technologies comme Git par exemple, qui était
de versionnement de logiciels. Voilà, on a déjà fait une émission là-dessus, justement, on renverra.
Qui a été introduit d'abord dans les logiciels libres et qui est rentré après dans les entreprises. Donc, il y a énormément de technologies qui ont été développées rapidement parce que dans les logiciels libres, on n'a pas de maintenance, de support, de choses chiantes à faire, là où les entreprises, elles freinaient de faire en disant « Ouais, mais ça va casser, ça va changer, nanana ». Dans le logiciel libre, on y va, on casse, on s'en fout.
Et est-ce que c'est facile, finalement, de faire comprendre à l'éducation nationale que oui, c'est un logiciel libre, mais ce serait bien si vous versez un petit peu d'argent ?
Non.
Non. Et comment on y arrive ?
Mais comme ailleurs, comme dans les entreprises, toutes les entreprises utilisent des tonnes et des tonnes de logiciels libres. Et très peu arrivent au stade de j'ai conscience que les logiciels libres, c'est... C'est quelque chose d'important dans mon écosystème. Je suis basé dessus. Et si les gars, ils arrêtent de le faire, ils arrêtent de le maintenir, eh ben, je suis dans la merde parce que c'est moi qui vais devoir le faire. De là à dire, ben, je vais quand même payer, financer des communautés, c'est quand même un peu difficile.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Bruno Coudouin, créateur du logiciel J'ai Compris. Et donc, on va parler un petit peu justement de comment le numérique entre à l'école et comment toi tu le perçois. On va parler de solutionnisme technologique et est-ce que des fois c'est bien fait ? Est-ce que tu as vu des usages inappropriés, totalement manqués des outils numériques à l'école ? Est-ce que par exemple l'idée des tablettes ou des tableaux interactifs, toi ça marche, ça marche pas au final ?
Alors là tu me poses une colle parce que je suis pas, je suis pas vraiment enseignant et donc je sais pas du tout répondre à ça. Moi, à la base,
c'est bien pour ça que je te le pose, c'est que t'as pas un supérieur hiérarchique qui peut te foutre dehors.
Personne peut me foutre dehors, mais j'ai pas vécu. Je suis pas enseignant. Je l'ai pas vécu en cours. J'ai pas du tout vraiment vécu ça. Moi, à la base, c'était un truc pour mes gamins, pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Et après, c'était pour dire, si les profs, ils ont envie vraiment, s'ils estiment que ça aide et que les logiciels, ils ont besoin de logiciels éducatifs, autant que ce soit des logiciels libres, quoi. Donc, c'était un peu la base. Après, ce qu'ils ont
l'idée vraiment qu'ils besoin, puissent le ramener à la maison, quoi.
L'idée que ils puissent le ramener à la maison, que les enfants puissent l'utiliser chez eux, que les professeurs puissent participer et être partie prenante. Donc, dans la communauté, il y a des profs qui sont enseignants et qui corrigent le logiciel. Donc, par exemple, une petite anecdote que je cite souvent, c'est qu'il y a une activité pour découvrir, pour apprendre à bouger la souris. On en a parlé un petit peu. Et cette activité, il y a un prof qui s'est rendu compte que les garçons étaient meilleurs que les filles. C'est-à-dire qu'ils réussissaient plus vite. Mais en fait, les garçons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bougeaient la souris n'importe comment. Et ça finissait par effacer tous les carrés dans l'écran.
D'accord.
Alors que les filles, elles s'appliquaient, elles faisaient bien, tac, tac, tac. Et donc, il a patché le logiciel, il a modifié pour qu'il faille rester au moins 150 millisecondes sur chaque case pour qu'elles puissent être considérées comme effacées. Et là, maintenant, les garçons, ils sont obligés d'effacer comme ferait une fille bien appliquée.
Ouais, ils auraient pu mettre des carrés piégés qu'il fallait éviter. Hein. Ça aurait tout aussi bien marché.
On aurait pu faire plein de choses, mais c'est intéressant, c'est que c'est des choses que tu peux te rendre compte qu'en classe, qu'un professeur peut se rendre compte.
C'est le retour utilisateur.
C'est le retour utilisateur, voilà.
Est-ce qu'il t'a fallu d'adapter, j'ai compris, un certain type de matériel que tu n'imaginais pas ? On va parler des tablettes, par exemple.
Oui, ça effectivement, mais tablettes, c'est un problème technique. Mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a eu, ou dans les anecdotes un petit peu, c'est des adaptations culturelles, puisque là, on vit ce qu'est un marché mondial. Et donc, quand par exemple, faut faire une version pour l'Arabie Saoudite, il y a certains, on avait fait des petits diables, on avait des petits personnages diables qui représentent BSD, les écoles en Afrique, il y a des écoles, même des écoles catholiques qui ont pas trop apprécié le diable parce que ça faisait peur aux enfants.
Ils pensaient que ça faisait peur aux enfants, peut-être.
Moi, je sais pas. Je sais pas. Tu as des informations précises?
Non, mais souvent, il y a des gens bien pensants qui pensent à la place des autres. Oui.
Voilà, donc un jour, on a fait une version quand même pour l'Arabie Saoudite, et quand on a enlevé tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en Arabie Saoudite, le logiciel faisait la moitié du poids en kilo-octets du logiciel pour les autres pays, quoi. Donc on n'a pas le droit à la musique, on n'a pas le droit on avait des peintures d'impressionnistes un peu dénudées comme ils les aimaient.
L'origine du monde, par exemple.
On n'a pas l'origine du monde, mais y a, même sans l'origine du monde, il y en a déjà des pas mal qui... Et donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, mais c'était vraiment, vraiment...
D'ailleurs, truc amusant, l'origine du monde, il a appartenu à un prince arabe et c'est lui qui l'a fait recadrer puisque le tableau était plus grand à l'origine et c'est lui qui a vraiment mis au centre, justement, l'origine. Est-ce que tu as dû travailler l'accessibilité et comment ?
L'accessibilité, oui, ça, on fait attention puisque c'est pour un jeune public, donc forcément, on fait attention à ce que ce soit accessible. Après, on n'a pas l'accessibilité... pour les aveugles. Alors, malgré tout, même pour les aveugles, récemment, même si je suis un petit peu la communauté, moi, j'avais fait une activité pour apprendre le braille. Pas pour les aveugles, mais pour faire créer ce lien entre les voyants et les non-voyants, pour que des enfants voyants puissent comprendre comment on fait du braille. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le braille, c'est un codage numérique des caractères, donc on se rapproche de l'informatique. C'est assez intéressant. C'est comment je code avec 6 points un caractère. Et récemment, on n'avait pas fait comme il faut. On a compté les points de 1 à 5 au lieu de les compter de 1 à 6. Et il y a une école braille qui nous a, une école d'enfants non-voyants, qui nous a écrit en disant non, le logiciel, il n'est pas comme il faut. Et une fois, j'avais vu un reportage aussi au Mexique où ils étaient dans une école non-voyante Et ils montraient les logiciels qu'ils utilisaient. Dans les logiciels qu'ils utilisaient, il y avait J'ai compris. Donc j'aimais bien de temps en temps aller sur YouTube, regarder les vidéos qui parlent de J'ai compris, tout ça, où tu n'es pas du tout informé, ça, la communication passe en dehors de toi. Mmh. Et des fois, tu vibres un peu et tu te dis, ouais, mais quand même, il y a des gens, ils font ça avec ton soft, quoi. T'es bluffé, quoi. Tu te dis, mais j'aurais jamais pensé qu'au bout du monde... Et ouais, ça te booste, ça te fait vibrer. Tu te dis, mais moi, je suis tranquille dans mon canapé. Là, je code des trucs. Et puis, au bout du monde, il y a des gamins, il y a des gens, ils amènent ton soft à mobilette dans les écoles. Et tu vois des vidéos où les enfants, ils sont en train de jouer à ton soft. Quoi. Mais tu te dis, mais c'est, je fais ça, c'est énorme, quoi, en quelque part. C'est vraiment énorme. Tu as atteint une audience mondiale avec 3 bouts de ficelle et ça marche, quoi, on s'éclate, quoi.
Tu as arrêté d'animer la communauté, j'ai compris, il y a environ 2 ans, si je me trompe. Donc en 2016, tu as cédé la main sur la gestion du code. Est-ce que néanmoins, tu gardes un œil sur la cour de récré pour pas qu'il fasse n'importe quoi ?
Non, pas pour qu'il fasse n'importe quoi, mais je participe. Là, ben, j'ai fait une mise à jour du serveur. C'est moi qui continue à administrer le serveur parce que je l'avais mis en place. Mais non, le projet, je gère rien, je contrôle absolument rien du tout. Et ils ont continué sur la trace de ce qui avait été lancé. Ils font de manière admirable, dans le même esprit. À la fois, il n'y a rien de changé dans le fond. On continue à prendre des étudiants. Donc chaque année sur le projet, on prend des étudiants dans un projet qui s'appelle le Google Summer of Code. Donc là, c'est Google qui finance des étudiants. À peu près 5 500 $ qui leur sont donnés pour
3 mois
de 3 mois de travail pendant l'été.
Et puis, en plus, ils sont coachés par des pros de Google et tout, donc c'est vraiment une super école, quoi.
Et ils sont coachés par des gens de J'ai compris, surtout.
Aussi, ouais.
plus que des gens de Google, ils sont coachés par des gens de J'ai compris qui vont les mentorer pour qu'ils réalisent des activités dans J'ai compris. Donc ça, cette activité, elle continue. Il y a eu des étudiants... Cette année, j'ai pris des étudiants à l'époque, des étudiants indiens, une étudiante indienne d'ailleurs, qui ensuite a fait carrière, qui a été prise au MIT Media Lab et qui a continué, qui est toujours aux États-Unis. Donc ça fait aussi cette passerelle où on amène un peu des jeunes, on permet à des jeunes de rentrer dans l'univers du code parce qu'on peut plus facilement le faire que peut-être dans des logiciels... propriétaires et dans des grandes entreprises. Donc c'est aussi une grande satisfaction de permettre au monde entier de participer, de coder, d'échanger.
Bruno, je te propose quelque chose. On va aller quelques siècles dans le futur, on va voir ce qui se passe dans les facs. Bruno, merci infiniment d'être venu et nous avoir fait partager quand même ces moments où comme qu'on peut être prof sans l'être. Et ben, influencer des millions d'élèves, ça c'est quand même extrêmement beau. Tu participes encore à la communauté, tu interviens encore publiquement, si je me trompe.
Quand on m'invite, quand il y a des gens qui ont envie de m'écouter, je suis prêt à le faire.
Puisque je crois qu'on te voit régulièrement au Capitole du Libre.
Capitole du Libre le 17 et 18 novembre prochain.
Pour 2018, oui, tout à fait. Ouais. Merci infiniment d'être venu et au plaisir de se revoir.
Merci à vous aussi.